Eh bien, alors je propose de procéder en 5 étapes. D'abord, décrire ce qu'est la théorie du genre. Ensuite, voir de quelle façon la théorie du genre peut être réfutée, parce que c'est une théorie qui n'est pas du domaine de l'opinion, mais que l'on peut réfuter, puisqu'elle a une prétention à la vérité, on peut donc la réfuter. Trois, voir dans quel contexte normatif international s'inscrit cette théorie du genre, qui participe d'un mouvement normatif international qui dépasse largement le seul cadre de la théorie du genre. Quatre, passer en revue un certain nombre d'incarnations concrètes de la théorie du genre, voir comment cette théorie s'incarne dans la loi européenne, la loi française ou la loi belge. Et enfin, dernier point, cinquième point, que faire ? Comment peut-on lutter de manière efficace contre cette théorie du genre, si tant est naturellement que vous le jugiez opportun ? Alors, le premier point, qu'est-ce que la théorie du genre ? Pour aller à l'essentiel, la théorie du genre, c'est une théorie de la sexualité. C'est ce que Samuel nous avait laissé entendre dans son introduction. C'est effectivement une théorie de la sexualité. C'est une théorie qui, plus précisément, nie, je dirais, la dimension biologique du sexe. La théorie du genre considère que notre concept de sexe est culturel de part en part. Donc si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, ce serait celle-là. La théorie du genre est une négation de la dimension biologique du sexe. Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut partir, si vous le voulez bien, de la représentation classique, traditionnelle du sexe, qui dit qu'il y a une réalité biologique, la distinction entre le sexe masculin et le sexe féminin, autour de laquelle viennent se greffer un certain nombre de représentations culturelles, qui varient selon les sociétés et selon les époques. Il est évident que ce que nous considérons comme relevant du féminin dans notre société aujourd'hui n'est pas identique à la conception médiévale européenne de la féminité ou saoudienne contemporaine de la féminité. Donc il y a effectivement une dimension de relativité dans ces notions de genre. Mais nonobstant, dans la dimension, dans la représentation classique de la sexualité, on considère qu'il y a un noyau, une base qui est de nature biologique et qui, elle, est invariable. C'est-à-dire donc la distinction entre le sexe féminin et le sexe masculin. Eh bien, la théorie du genre, elle va nier cette dimension biologique en considérant que non seulement le genre est une représentation culturelle, mais que c'est le genre lui-même qui, à son tour, engendre, c'est le cas de le dire, une représentation culturelle du sexe qui lui soit cohérente. Si à un moment vous ne comprenez plus rien à ce que je raconte, c'est pas de ma faute, c'est la faute du sujet, mais n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à le dire et à me poser une question. Donc c'est important de comprendre. Donc dans la représentation classique, il y a ce noyau biologique autour duquel viennent se greffer des représentations culturelles. Dans la représentation du genre, il y a la culture de la féminité et de la masculinité qui engendre à son tour le sexe, en faisant croire, en laissant à croire que le sexe est lui-même une réalité biologique, mais de manière, selon la théorie du genre, fausse et erronée. Alors, ça c'est le cœur de l'argument. Maintenant, voyons qui a porté la théorie du genre. En fait, on va rapidement passer sur un point accessoire, c'est que les études de genre, c'est-à-dire étudier ce qui relève du masculin, du féminin, la différence dans les époques, etc., ça existe depuis très longtemps. Ça, ce n'est pas ce qu'on appelle la théorie du genre. La théorie du genre, telle que je viens de vous la décrire, elle est tributaire d'un auteur qui est une universitaire américaine, qui s'appelle Judith Butler, et qui a publié en 1990 un livre qui s'appelle « Troubles dans le genre ». Et ce livre qu'elle a publié a eu une influence absolument considérable. Il a été traduit dans quasiment toutes les langues qui existent sur la planète, et il a eu une influence, je dirais, dominante sur toutes les études de genre qui ont été entreprises depuis. Avant Butler, en gros, il n'y avait pas réellement de théorie du genre. Il y avait déjà quelques fondements qui existaient, mais il n'y avait pas encore de théorie du genre au sens strict. Donc Judith Butler, ça c'est vraiment le nom à retenir. D'ailleurs, on pourrait, dans le cas de la théorie du genre, parler de butlerisme, parce que réellement, cette théorie du genre lui doit énormément. La question qu'on peut être amené à se poser, c'est de savoir quel intérêt. Quelle est l'importance de la question de savoir si le sexe est une réalité biologique ou bien s'il est lui-même une réalité culturelle. Eh bien, c'est crucial, parce que ce que fait Judith Butler, elle ne se limite pas à nier la réalité biologique du sexe, elle considère que tout ce qui en procède dans notre culture, et qui est évidemment assez important, qu'on songe simplement à la complémentarité des sexes féminins et masculins, relève de l'imposture. À partir du moment où l'affirmation d'une dimension biologique au sexe est une imposture, tout ce qui en découle dans notre culture relève également de l'imposture. Et c'est la théorie que soutient effectivement Judith Butler. Pourquoi le fait-elle ? Eh bien, dans une préface qu'elle a rajoutée à son ouvrage en 1999, elle explique qu'elle est lesbienne, qu'elle a fait son coming out à 16 ans, qu'elle a beaucoup souffert de cet état de minorité, de sa prédilection, sans préjuger de son origine sexuelle, et que son œuvre doit être comprise comme une machine de guerre contre ce qu'elle appelle l'hétéronormativité. Il y a un certain nombre de néologismes comme celui-là, dont je suis conscient qu'ils sont assez difficiles de prime abord, mais on doit les utiliser parce qu'ils sont, je dirais, vraiment cruciaux dans la théorie du genre. Judith Butler explique qu'il y a dans notre société, et plus largement dans toute société depuis le début de l'histoire de l'humanité, une affirmation de l'hétérosexualité qui, je dirais, nuit à toute autre représentation du sexe. À partir du moment où l'on affirme, explique Butler, la naturalité de l'hétérosexualité, par définition, tous les autres choix possibles sont contraires à la nature et sont donc inférieurs, condamnables, etc., etc. Samuel nous faisait un passage de la Bible qui est cohérent avec ce raisonnement, je dirais, de Butler. Et donc, le but ultime de Butler, quel est-il ? Il est en affirmant la conventionnalité, l'artificialité de l'hétérosexualité, de déconstruire le genre tel qu'on se le représente aujourd'hui, qui est fondé sur la distinction du sexe masculin et du sexe féminin, pour ouvrir grandes les portes à l'affirmation de tous les genres alternatifs. Alors c'est quoi les genres alternatifs ? Moi, de prime abord, je me disais, bon, c'est être homosexuel, quoi. Je ne vois pas vraiment d'autres possibilités, mais pas du tout. Donc elle explique de manière très, très claire qu'il y a en réalité toute une série de genres possibles. Je ne vais pas vous les décrire mais le genre femme, par exemple, le genre butch, qui sont autant de déclinaisons de ce qui est quand même généralement au départ une forme soit d'homosexualité, soit de bisexualité. Mais de manière encore plus fondamentale, Butler explique dans son ouvrage, ou laisse entendre, même si elle se contredit par après dans la suite de son œuvre, que nous sommes libres, nous, en tant qu'êtres humains, de choisir notre genre et donc notre sexe, puisque pour elle, finalement, tout ça participe d'un même ensemble, à un moment déterminé, et d'en changer ensuite. Rien n'empêche l'individu, à partir du moment où le sexe a été dévoilé dans sa dimension d'artificialité, donc de pur choix, de choisir un genre à un moment déterminé de son existence, et puis d'en changer. Ça vous paraît énorme, je le vois, de la façon dont vous me regardez. Mais c'est énorme. Mais ce qui est encore plus énorme, c'est pas tellement qu'on puisse affirmer ce genre de théorie, c'est le succès. Parce que la théorie du genre connaît un succès mondial absolument époustouflant. Alors, terminer sur ce point de présentation de la théorie du genre, dans quelle grande catégorie intellectuelle est-ce qu'on peut ranger la théorie du genre ? En réalité, la théorie de Butler revient à affirmer que dans le domaine de la sexualité, il n'y a pas de limite à ce que la culture peut affirmer. Donc en réalité, c'est la théorie du langage. La réalité, si vous voulez, n'est pas indépendante du langage. Nous pouvons, par la force de notre langage, instituer la réalité de notre choix dans le domaine de la sexualité. Comment s'appelle cette vision des rapports entre langage et réalité ? Est-ce que certains parmi vous le savent ? C'est l'idéalisme. C'est un vieux débat qui existe depuis les philosophes grecs. Est-ce que c'est la réalité qui contraint en quelque façon le langage, ou est-ce que c'est le langage qui institue la réalité ? C'est un vieux débat. Qu'on ne peut pas trancher d'ailleurs de manière ultime, on ne va pas entrer dans les détails maintenant, mais donc elle prend clairement le parti du langage démiurge, celui qui institue la réalité sans être le moins du monde contraint par celle-ci. Donc c'est ce qu'on appelle l'idéalisme. Hegel, dans l'histoire des idées, offre une figure l'idéalisme. Elle a d'ailleurs consacré sa thèse à la réception de la pensée de Hegel dans la philosophie française du XXe siècle. Donc c'est quand même déjà assez pointu, surtout pour quelqu'un qui est au départ une américaine. Plus fondamentalement encore, et j'en termine vraiment avec ce premier point, avant de récapituler l'élément essentiel, la théorie du genre est un idéalisme, c'est-à-dire un relativisme. Parce qu'à partir du moment où vous affirmez que la seule réalité qui vaille est celle qui est instituée par le langage, vous supprimez toute référence objective extérieure qui permette de faire le départ entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Je m'explique. Pour revenir à mon cas de la sexualité, si je peux choisir dans le domaine sexuel tout ce que je veux, en fonction de ma pure volonté, la dimension de vérité disparaît. Et donc, on est dans l'affirmation d'un relativisme. Il n'y a plus de vérité sexuelle pour personne. Il n'y a plus que cette possibilité de libre disposition de son propre sexe, de sa propre corporéité, comme on dit en langage philosophique dans ce domaine. Alors, c'est difficile. Je suis d'accord. C'est difficile. Mais en même temps, et d'ailleurs, la lecture de l'ouvrage de Butler est vraiment très, très difficile. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elle écrit d'une manière vraiment très particulière. Ensuite, parce que sa théorie est assez complexe. Et enfin, parce qu'elle se fonde sur un certain nombre de grandes sources philosophiques comme Freud, Foucault, etc. Mais elle se réapproprie ces sources d'une manière très originale. C'est une vraie intellectuelle, Butler. C'est d'ailleurs ce qui explique en partie son succès et le fait qu'elle soit redoutable. C'est que c'est une vraie intellectuelle. C'est pas simplement un amateur qui écrit un petit livre qu'on peut réfuter comme ça sur un coin de table. C'est une vraie intellectuelle. Alors, donc, je me résume pour bien comprendre et préparer la suite. La théorie du genre est d'abord et avant tout une théorie de la sexualité, qui consiste à nier la dimension biologique du sexe. C'est un élément qui est assez clair, mais sur lequel beaucoup de gens se sont trompés, y compris parmi les critiques de Butler, qui lui prêtent une adhésion à une forme, je dirais, un peu dénaturée de modèle classique de la sexualité, alors que pas du tout. Naturellement, si Butler reconnaît qu'il y a une dimension biologique dans le sexe, elle retombe dans la théorie classique de la sexualité, et donc il n'y a plus de théorie du genre. La théorie du genre ne peut exister que par cette négation de la dimension biologique du sexe. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier point, avant que je ne poursuive? Je n'ai pas une demande de précision. Est-ce que c'est suffisamment... Enfin, est-ce que vous me suivez jusqu'ici? Oui? C'est plus simple après. Oui, monsieur?
Pourquoi cette théorie a rencontré un tel écho? Pourquoi a-t-elle eu un tel succès?
Eh bien, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. À mon avis, c'est parce que c'est la première théorie qui donne un soubassement théorique cohérent aux revendications historiques de la communauté homosexuelle. C'est la première fois qu'on a une théorie qui permet de dire aux homosexuels, bon, nous avons souffert historiquement de l'hétéronormativité pour des raisons qui sont de l'ordre de l'imposture. Et donc, je pense qu'effectivement, ça, c'est la raison, c'est cette coïncidence. D'ailleurs, c'est la volonté expresse de Butler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est cette coïncidence entre la sortie de sa théorie, puisque 1990, c'est il y a à peine 25 ans, et cette capacité qu'a cette théorie de donner un soubassement théorique aux revendications homosexuelles historiques. Monsieur.
Pourquoi devait-elle aller aussi loin alors que nous sommes dans un contexte où pratiquement une ouverture à comprendre l'importance entre guillemets ou la place de l'homosexualité? Pourquoi a-t-elle poussé plus loin cette théorie jusqu'à finalement déconstruire l'ensemble de nos conceptions?
C'est quoi votre nom encore, monsieur?
Comment?
Quel est votre nom encore?
Gaston.
Monsieur, votre nom de famille?
Boula.
Monsieur Boula, c'est ça? Monsieur Boula. Mais, monsieur Boula, la haine idéologique, parce qu'il y a une dimension haineuse dans l'œuvre de Butler, elle est d'ailleurs très claire par rapport à ça. Elle explique qu'elle a souffert donc, de sa prédiction. Elle explique qu'elle a un oncle qui a fini... Tout ça, elle le dit, ce n'est pas moi qui projette des fantasmes sur Butler, qui a fini par se suicider. Donc il y a une dimension vraiment haineuse à l'égard du modèle hétérosexuel. Et puis je pense qu'il y a peut-être aussi, en ordre accessoire, un peu de l'orgueil d'intellectuel. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes, et alors elle a poussé peut-être ça à l'extrémité. Donc voilà. Monsieur ?
Je voulais demander la réalité biologique, enfin, je vais dire, de par justement tous les documents et tout ce qui est apporté par la science au niveau biologique, comment est-ce qu'on peut. C'est la réalité biologique. Mâle, femelle, universellement, est quand même là, qui est soutenu par des scientifiques, etc. Comment est-ce qu'on peut aussi facilement...
Mais je dirais deux choses. D'abord, je réponds de la même façon que la question de M. Boula, c'est-à-dire que c'est le propre de l'idéologie, finalement, de nier la réalité, en tout cas une dimension particulière de la réalité, certains aspects de la réalité. C'est ça l'idéologie, sinon il n'y aurait que des théories scientifiques. Et par ailleurs... Ce qui est fascinant, si vous voulez, c'est de se dire que dans les mêmes universités américaines, qui sont parmi les meilleures du monde, comme suivant des critères enfin, qui me paraissent valables, Harvard, etc., Yale, vous avez dans les départements scientifiques, je ne connais aucun article scientifique au sens des sciences dures qui nie, comme vous le dites très justement, la distinction des sexes. Aucun. Zéro. Et dans le même temps que la science fonctionne sur cette base-là qu'elle n'interroge pas, ou alors à la marge, il y a toujours des cas un peu limites, vous avez dans les départements littéraires des mêmes universités des gens qui développent des théories idéologiques qui nient totalement finalement la science. Donc dans les mêmes couloirs, parfois. Et ça, c'est... Oui, mais écoutez, ça, moi, je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Ça, donc une fois, c'est la force de l'idéologie. Pourquoi ? En gros, c'est qu'il y a le critère de la vérification empirique qui existe pour les sciences dures que nous n'avons pas dans les sciences humaines. Dans les sciences humaines, on peut raconter n'importe quoi très longtemps. Le marxisme a commencé d'être réfuté 50 ans plus tard. Il était encore au pouvoir, on peut dire, dans un grand nombre d'États. Nous n'avons pas le critère de la vérification. Donc, généralement, notre critère de vérification, quand je dis nous, c'est dans le domaine des sciences humaines, c'est la catastrophe. Quand une théorie a été mise en vigueur et qu'elle aboutit systématiquement, mais un grand nombre de fois, généralement, à des catastrophes humaines, là, on se dit, oui, on sera peut-être effectivement y renoncer. Mais par contre, dans le domaine des sciences, c'est beaucoup plus rapide, puisqu'on vérifie, on mesure, etc. Je pense que c'est ça le motif. Je prends encore une question, si vous voulez, avant de passer au point suivant, monsieur.
Bonne question.
Bon, moi, en fait, si vous voulez, c'est comme je me suis intéressé, comme le rappelait Samuel, au GIEC. Autre sujet particulièrement ingrat, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit un sujet très sexy, le GIEC. Ce qui fait qu'on s'y intéresse, c'est que le GIEC, je m'en souviens très bien, c'est que j'ai terminé ma thèse à la Sorbonne, j'ai eu une discussion avec un ami qui me disait, tiens, il y a une étude qui sortait, qui a montré que les glaces de l'Himalaya, le GIEC disait qu'elles seraient fondues en 2035. On a montré qu'en fait, c'était une erreur. Et le président du GIEC avait parlé aux gens de façon très méprisante, en disant « Vous n'y connaissez rien, nous sommes la science ». J'avais trouvé ça très étonnant. Et donc, là, j'ai fait une analyse épistémique. Donc, si vous voulez, c'est... Comment dire ça ? C'est...
La curiosité.
C'est la curiosité. Et puis, c'est le fait de... Nous ne devons pas accepter de succomber au mode idéologique. Et donc, à partir du moment où on comprend, comme intellectuel au sens large, ce que vous êtes... autant que moi, que l'on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui sont avancées comme relevant de l'évidence, le cas échéant scientifique, alors que ce n'est pas le cas, à ce moment-là, ça devient naturel comme volonté, si vous voulez témoigner. Oui, c'est un intérêt intellectuel, je n'ai pas d'autre intérêt que celui-là. Voilà. Donc je vais poursuivre, hein, parce que sinon ça va être un peu trop long. Le deuxième point, comme je vous l'ai annoncé, c'est que la théorie du genre a une prétention scientifique. Donc elle prétend rendre compte de la réalité, de ce qu'est un homme, de ce qu'est une femme. Et donc elle a la prétention au vrai et au faux. Ce qui prétend au vrai et au faux peut être réfuté. Quand on prétend au vrai ou au faux, on est vrai ou on est faux. Ou alors, il y a une troisième catégorie, mais celle-là reste à découvrir. Eh bien effectivement, il y a dans la théorie de Butler un certain nombre de propositions qui sont irréfutables, et d'autres par contre qui sont discutables et même réfutables. Je vais en prendre trois. La première, donc, comme je vous l'ai dit, la théorie du genre est structurellement ce qu'on appelle un relativisme. Un relativisme. Et donc, comme toute théorie relativiste, elle comporte sa propre négation. Puisque quand on dit que rien n'est vrai, ça s'applique évidemment à soi-même. Ainsi que l'a reconnu un des plus grands penseurs relativistes du XXe siècle, qui s'appelle Feyerabend, dans son dernier ouvrage autobiographique qu'il a écrit à la fin de sa vie, qui s'appelait « Tuer le temps ». Donc le relativisme est autonégateur. Voilà, ça, c'est je suis conscient du fait que c'est une critique très générale, mais enfin qui reste parfaitement pertinente dans cette figure du relativisme qu'est la théorie du genre. Deux, et on est déjà plus au cœur du sujet, si, comme l'affirme Butler, l'hétérosexualité est quelque chose de factice, est une imposture. On est évidemment en droit de se demander comment cette imposture a pu s'imposer dans toutes les sociétés et à toutes les époques. C'est quand même formidable. Il n'y a aucune autre idéologie, à ma connaissance, qui transcende toutes les époques, toutes les sociétés, toutes les idéologies. Comme, selon Butler, le fait, la distinction, la théorie, l'imposture, si vous voulez, naturalisée, du sexe naturalisé, donc la biologie sexuelle, la distinction des sexes. Alors, elle explique, Butler, que cette imposture du sexe, elle est née d'un certain nombre de relations de pouvoir. C'est-à-dire, si vous voulez, qu'elle reflète des intérêts particuliers. Elle emprunte ce concept de relation de pouvoir à un auteur français qui s'appelle Michel Foucault, qui est notoirement déjà un auteur assez particulier pour ceux parmi vous qui le connaissent, dont l'influence est néanmoins considérable. C'est un des philosophes les plus influents de l'histoire de la philosophie, enfin de la pensée en général. Et malheureusement, elle ne l'explique jamais. Alors, moi j'ai réfléchi à la question dans le livre dont parlait Samuel tout à l'heure. Quelles sont ces relations de pouvoir? Quelle est exactement la vraisemblance d'une sorte de complot hétérosexuel qui aurait été imposé sa prédilection dans toutes les sociétés et à toutes les époques? Je vous laisse répondre chacun pour ce qui vous concerne à cette question, mais ça me paraît hautement invraisemblable. L'alternative étant que cette distinction des sexes procède non pas de la culture d'un complot de relations de pouvoir, mais de la nature, ce que nie évidemment Butler. Troisième point, et là qui est fondamental, c'est que, comme j'essaie de vous l'expliquer de manière compréhensible, Butler nie la dimension biologique du sexe, donc de la corporéité humaine, la distinction des sexes. Mais malheureusement, pour elle, tant mieux pour nous, à plusieurs reprises dans le livre dont je vous ai parlé, elle concède en passant qu'il existe un certain nombre de contraintes biologiques qu'on ne peut pas démentir, auxquelles on ne peut pas déroger, auxquelles on ne peut pas se soustraire. Par rapport à différentes choses, je ne rentre pas ici dans le détail. Mais ce qui est important à retenir, c'est que de deux choses l'une, soit il y a une dimension biologique qui s'impose à nous dans la corporéité en général, dans le sexe en particulier, soit pas. Si on n'a pas, c'est la théorie du genre, l'idéalisme, le relativisme, mais s'il y en a, on n'est plus dans la théorie du genre. Puisque toute la théorie de Butler procède de cette négation de la biologie, on ne peut pas à la fois nier la biologie et en même temps en affirmer la réalité. Donc si vous voulez, il y a une non-cohérence interne de la théorie de Butler, qui, comme déjà Aristote l'avait expliqué, est le premier grief et aussi le plus puissant qu'on puisse développer contre une théorie. Vous me suivez? Est-ce que vous avez des questions? Parce que sur mon deuxième point, moi je vais en rester là. Je ne vais pas aller trop en détail à chaque fois. Oui.
Où place-t-elle la procréation? Est-ce que c'est une concession biologique de sa part? Ou elle n'en parle pas et met la loi du genre uniquement d'un... Enfin, elle étudie ou le présente uniquement d'un point de vue plaisir ou...
Excellente question, je vais répondre. Monsieur, c'est comment votre nom?
Vincent.
Monsieur Vincent. Évidemment, la procréation, c'est l'argument massu contre la théorie du genre. C'est que vous et moi, nous sommes des hommes, nous ne risquons pas de porter des enfants, en tout cas dans l'immédiat. Donc, argument massu, les femmes ont la capacité d'engendrer la vie, les hommes ne l'ont pas. Alors, Butler, ça ne lui a pas échappé qu'il y avait cet argument. Elle le prend en compte, c'est pour ça que vous avez raison de poser la question, elle le prend en compte et elle nie, effectivement, de manière expresse, il y a plusieurs reprises dans le bouquin dont je vous parlais tout à l'heure, le fait que la femme soit, en quelque façon, condamnée dans son esprit à engendrer pour elle tout ce concept, toute cette théorie de la maternité et donc de son rapport au sexe féminin est une imposture. Alors, ne me demandez pas comment elle le justifie. Forcément. Oui, mais c'est plus compliqué que ça. Forcément, elle ne peut pas le justifier. Elle ne peut pas nier. Elle ne va pas dans le détail de ça. Mais là, ce qui vient au secours de la théorie du genre, c'est la technique. Comme vous le savez, certains parmi vous, nous sommes proches. Il y a souvent des choses dont on dit qu'elles sont proches, qui n'y arrivent jamais. Mais là, nous sommes réellement, scientifiquement proches de ce qu'on appelle la capacité de faire des grossesses extra-utérines. Et là, formidable. Là, c'est la preuve, si vous voulez, pour Butler, que cette idée que la maternité soit... Seules les femmes y soient condamnées est fausse, est factice et purement culturelle. Mais c'est évidemment pas une preuve. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la technique qui vient à son secours, mais ça ne prouve évidemment rien sur le plan strictement sexuel. Mais c'est de cette façon-là qu'elle prend en charge cette question.
Surtout si elle veut s'inscrire à travers l'histoire et à travers la civilisation. Est-ce que c'est un argument qui...
Complètement.
Ça impose que, éventuellement...
Tout à fait.
Ne peut pas être
utilisé. Oui. Maintenant, merci beaucoup. Maintenant, si vous me demandez indirectement de savoir si c'est effectivement vraisemblable cette négation de la dimension biologique, donc, la réponse est non pour moi. Mais ici, on essaie de voir de quelle manière effectivement elle prend en compte. Est-ce qu'il y a une autre question sur ce point de la réfutation? Non? Très bien. Alors, le troisième point que je vous ai proposé d'aborder. C'est la contextualisation du mécanisme. Bon. La théorie du genre, c'est un succès patent. Il y a peu de philosophes qui ont écrit un livre et qui, 25 ans plus tard, sont arrivés au pinacle dans le monde des idées et dans le monde normatif. puisque maintenant il y a des tas de lois qui sont directement fondées sur la théorie du genre au niveau national comme au niveau international et qui n'auraient pas existé si Butler n'avait pas écrit son livre. Avant, il fallait généralement quand même, bon, entre le Marx et le marxisme, la révolution d'octobre, etc., il sait quand même, je crois que Marx est mort en 1883, la révolution d'octobre c'est en 17, enfin, il y avait quand même quelques années. Bon, ici, il y a eu un succès presque immédiat, pas simplement dans le domaine des idées, mais également sur le plan normatif. Et en réalité, puisqu'on on a parlé du GIEC, donc du climat, je vous dis directement que vous n'êtes pas obligé d'adhérer à mes raisonnements dans le domaine de l'écologie. Pour moi, les deux choses sont évidemment radicalement séparées. Alors, je ne suis pas un climato-sceptique. J'ai fait une analyse du GIEC pour montrer le mélange de science et de politique au niveau institutionnel, mais sur la science du climat, je n'ai rien à dire, je ne suis pas physicien. Mais ce que montre ce genre de phénomène, c'est la capacité dans notre monde actuel pour un certain nombre de minorités idéologiques de s'approprier des leviers de pouvoir et de faire s'incarner leur petite théorie très locale, idiosyncratique, comme on dirait, dans des normes. Je m'explique. Vous avez des entrepreneurs dans plusieurs domaines. Historiquement, il y a des entrepreneurs dans le domaine économique, c'est l'entrepreneur au sens strict. Il y a également des entrepreneurs dans le domaine politique, c'est des gens qui vont à la chasse aux voix, et qui sont des entrepreneurs, on peut dire aussi, dans le domaine politique. Et il y a, selon moi, une troisième catégorie d'entrepreneurs qui s'est développée à la faveur des dernières années, ce sont des entrepreneurs de la norme. Ce sont des gens qui ne veulent pas le pouvoir de l'argent. Enfin, ils sont d'accord de l'avoir accessoirement, mais ce n'est pas ça qui les motive principalement. Ce sont des gens qui ne veulent pas exercer, devenir Premier ministre ou ce genre de choses, mais qui veulent que les théories auxquelles ils adhèrent s'incarnent dans des normes. Et évidemment, la théorie du genre, de ce point de vue-là, est un exemple absolument fabuleux, mais également dans le domaine de l'écologie, où le GIEC aujourd'hui a une influence sur le droit national des 200 États qui composent la planète. Donc là, en termes de réussite, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'assez époustouflant. Et donc, vous avez ces entrepreneurs de la norme. Mais encore un point qui est important, c'est que non seulement ils parviennent à faire incarner leur théorie dans des normes, mais ils le font au niveau international. Pourquoi ? Pour deux raisons. C'est qu'au niveau international, il y a de plus en plus d'organisations internationales, ce qui est très bien, selon moi. Et ça reflète aussi la mondialisation de la réalité, s'accompagne en partie d'une mondialisation de certaines normes, ce qui est bien, ce qui est naturel, etc. Mais il y a beaucoup moins de mécanismes de check and balances, comme on dit en anglais, de mécanismes de contrôle démocratique au niveau international qu'il y en a au niveau national. Et donc c'est beaucoup plus facile de faire passer de petites théories sectaires, si vous me passez l'expression, au niveau international qu'au niveau national. Et le deuxième intérêt de cette démarche, c'est qu'une fois qu'on a réussi à faire s'incarner une théorie comme la théorie du genre dans une convention internationale avec des effets de droit, des effets obligatoires, on a partie gagnée. Après ça, on peut faire des débats nationaux. Mais si la convention elle a été votée, c'est terminé. C'est plus la peine de faire des débats. Enfin, si on peut toujours en faire, mais ça n'a plus aucun intérêt. Et de cette façon, si vous voulez, ces minorités dont je vous parle, elles aboutissent à un mot affreux, mais qui est néanmoins qui reflète la réalité, c'est la constitutionnalisation de leurs préjugés idéologiques. De fait, ce n'est pas une vraie constitution. Bon. Alors vous allez me dire tout ça, enfin vous allez peut-être penser que tout ça, ce sont des fantasmes de mon esprit. Pas du tout. Puisque dans le cas de la théorie du genre, ils ont réussi à faire voter en 2011 une convention au Conseil de l'Europe qui s'appelle la Convention d'Istanbul. Et la Convention d'Istanbul, non seulement elle consacre la théorie du genre, mais elle en consacre la version la plus extrême. Pourquoi ? Parce que la Convention d'Istanbul, elle exige des États... exige, parce que c'est le Conseil de l'Europe, hein. Donc ce n'est pas une recommandation de l'ONU ou genre de texte sans effet, c'est une convention du Conseil de l'Europe. Elle exige des États l'éradication de tous les rôles qui sont en rapport avec des stéréotypes masculins et féminins. Totalement incompréhensible comme phrase. Ce que ça veut dire, c'est que la convention d'Istanbul exige l'éradication... éradication, donc c'est le terme qui est utilisé, qui évoque un peu la Sainte Inquisition. Normalement, dans le domaine du droit, on ne parle pas d'éradiquer, enfin plus depuis quand même quelques siècles. Là, c'est le terme exact, je crois que c'est l'article 14 ou 12, l'éradication de tous les stéréotypes masculins et féminins. J'ai expliqué ça, notamment en France, et c'est un public qui est essentiellement de droite, je leur ai dit, écoutez, ce qui est dommage pour vous les Français, c'est que le gouvernement qui a fait voter ça, c'est pas la gauche. C'est, comme on dit en anglais, l'administration de Sarkozy, puisqu'on était en 2011. Alors il y a certains qui m'ont dit « Oui, mais non, mais bon, les stéréotypes, ça c'est bien le fait de ne pas cantonner la femme au foyer, sauf qu'évidemment ça n'a rien à voir, c'est tout à fait passé à côté du sujet. » Du point de vue de la théorie du genre, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, tous les stéréotypes qui procèdent du masculin et du féminin sont faux. sont des impostures. Et donc, du point de vue de la théorie du genre, si on doit éradiquer les stéréotypes, il faut tous les éradiquer. Donc, tout concept, il faut éradiquer le concept du masculin et du féminin. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment l'essentiel. Et si on éradique les concepts de féminin et masculin, il n'y a plus d'hommes et de femmes. Il n'y a plus que des êtres qui peuvent choisir leur genre, leur sexe, etc., etc. Vous comprenez? Donc, quand ils ont réussi à faire voter cette convention d'Istanbul, c'est un triomphe. Moi, je connais peu de cas, en fait, encore une fois, aussi rapide d'un triomphe, aussi... c'est un blitzkrieg idéologique, on peut dire. Ils lancent une campagne, ils parviennent au Conseil de l'Europe, parce que le Conseil de l'Europe, personne n'en parle. Moi, j'ai appris cette convention quand je suis parti d'une loi française de 2010 qui parlait de la théorie du genre, et c'est en faisant des travaux sur cette loi que j'ai pris conscience de l'existence de la convention d'Istanbul. Personne n'a parlé de ces débats. Personne n'en a parlé avant. Personne n'en a parlé après. Et même parmi vous, sauf ceux qui ont déjà lu ce que j'écris, personne ne sait que cette convention existe. Et pourtant, elle est obligatoire. Avouez que c'est quand même... Hein, c'est pas mal, hein. Donc ça, c'est la réalité. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Si vous n'êtes pas encore totalement désespéré. Oui, monsieur.
Pas totalement désespéré. Et quelle est l'opposition qui existe? Est-ce qu'il y a une opposition organisée ou...
Ça, on reviendra à la fin. C'est mon dernier point. D'accord. C'est que faire. D'accord. Je préfère le laisser pour la fin, si vous êtes d'accord. D'autres questions?
Je peux vous citer plein de décrets ou de lois européennes. Enfin, moi, je me vante un peu parce que je ne suis même pas, mais il y a plein de lois ou de décrets européens qui ont été votés, qui ont été établis, et pourtant qui ne sont pas du tout mis en pratique. En Belgique, la loi sur les minorités est un exemple parmi tant d'autres.
Quelle loi?
Le fait que les minorités ont certains droits, etc. Par exemple, les francophones en Flandre.
Oui, mais enfin, bon, là... Non, mais je comprends l'argument.
Voilà, demain, nier le fait que le masculin et le féminin existent...
Mais ça a commencé d'être le cas.
Les Européens, monsieur, madame, tout le monde... Allez,
écoutez...
Là, je ne vois pas comment, concrètement, d'accord. Ça pourrait se mettre en place...
Mais j'y viens. Justement, c'est mon point suivant. Okay. Mais la question est très pertinente. Hein. Je suis content que vous l'ayez posée. Mais ne croyez pas du tout au caractère... caractère purement fantaisiste, je dirais, de ces textes. Hein. On parle bien du Conseil de l'Europe. Et ce que je vais montrer maintenant, c'est que concrètement, il y a déjà de nombreuses lois nationales qui vont dans cette direction, et même des comportements et des discours au niveau des politiques nationaux. Bon, je passe au point suivant. Vous voulez encore poser une question, monsieur?
Juste une question.
Oui.
Cette convention,
cette convention n'est pas encore entrée en vigueur. Je crois qu'il y a encore deux États qui doivent la ratifier pour qu'elle rentre en vigueur. Mais une fois qu'elle sera... ratifiée par un nombre d'États suffisant, je crois que c'est 14 au total, eh bien elle va rentrer en vigueur. Et donc là, elle oblige les États qui engagent leur responsabilité comme État devant le Conseil de l'Europe, son Assemblée Générale, en fait. Et il peut y avoir des sanctions. Le Conseil de l'Europe, pour vous situer, c'est la Convention des droits de l'homme du 4 novembre 50. Donc c'est quand même un truc qui a une certaine importance. Quand on est sanctionné comme État par le Conseil de l'Europe, c'est vilain. C'est vilain par rapport aux autres, c'est vilain en termes de réputation, c'est problématique. Donc, on est effectivement dans des. On va pas. Il n'y a pas une armée qui va venir envahir la Belgique si elle ne respecte pas une convention. Mais je veux dire, on est dans des conventions qui, factuellement, sont respectées par les États qui les ont ratifiées. Alors, pour répondre à monsieur, j'en viens maintenant aux incarnations concrètes. En Belgique, nous sommes beaucoup moins, disons, dans les grandes envolées verbales qu'en France, mais nous sommes également beaucoup plus suiveurs. Et donc, quand on veut parler de la théorie du genre, quand on cherche des hommes politiques qui parlent ou qui se revendiquent expressément la théorie du genre, c'est plutôt en France qu'en Belgique qu'on les trouve. Maintenant, dans la réalité des faits, vu que la classe politique belge, surtout francophone, depuis déjà un demi-siècle, va toujours chercher son inspiration en France, on se demande bien pourquoi, parce que c'est quand même pas le pays qui marche le mieux en Europe, eh bien, donc effectivement, ce qui est vrai pour la France l'est également pour la Belgique. Il y a un certain nombre d'exemples concrets. Bien. Alors, comme exemple, vous avez une image qui m'a beaucoup frappé récemment, c'était la ministre... Nedjet Belkacem, voilà, Valo Belkacem, c'est le terme que je cherchais, qui a été dans une école maternelle où on mène l'expérience suivante. C'est qu'on fait jouer les enfants garçons avec des jouets de filles et les enfants filles avec des jouets de garçons. Pourquoi? Parce que si effectivement le genre est une imposture, bien il est parfaitement légitime de laisser l'enfant choisir son sexe. Encore une fois, ce n'est pas un fantasme. Je sais qu'il y a des choses qui doivent vous paraître extrêmes dans ce que je dis. D'abord, je ne suis pas du tout un extrémiste. Puis ensuite, ce que je vous dis, c'est la réalité, à la fois sur le plan théorique et sur le plan pratique. Vous avez une ministre du gouvernement de la République française qui est là, il y a une photo, c'est pour ça que je vous dis que ça m'a frappé, et qui voit effectivement un petit garçon qui joue avec des jouets de petite fille. En soi, on s'en fout. Hein. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas mort d'homme. Mais cette idée qu'on doit laisser l'enfant choisir, vous avez des enfants, beaucoup parmi vous, vous êtes chrétiens, donc à mon avis, vous devez avoir beaucoup, certains en tout cas des enfants. Cette idée qu'on doit aller... Un enfant, effectivement, il faut l'éduquer à la liberté. Moi, j'ai un petit garçon qui a 5 ans et demi. Pour qu'il puisse accéder à l'autonomie, il y a des choses qui doivent être soustraites au tout début de sa vie, à son jugement. Il n'a pas de jugement. Bah, quand il a 1 an ou 6 mois, on ne peut pas dire qu'il est... Ah, je crois que vous m'aviez contredit, pardon. Vous êtes d'accord, ça. Il y a des choses qu'on doit soustraire à son jugement. Et quand, moi, par exemple, le fait de savoir que je suis un homme plutôt qu'une femme, ça occupe encore une certaine importance, si vous voulez, pour moi. Enfin, c'est pas... Je veux dire, c'est pas crucial. Un petit enfant de 5 ans, 4 ans, 3 ans, c'est important pour lui de savoir que c'est un garçon ou une fille. Ça lui permet de se situer dans la réalité, dans le monde, par rapport aux garçons, par rapport aux autres, enfin, pas dire garçon ou fille, par rapport aux autres enfants de sa classe. Si vous enlevez aux enfants ce repère crucial, fondateur dans toute l'histoire de l'humanité, et que vous le laissez choisir pour ce qui concerne son sexe, vous arriverez nécessairement à des aberrations. Bon, il y a des tas d'enquêtes qui ont été menées, qui montrent que même quand on élève les enfants, enfin même dans les premiers mois de la vie, en Norvège, je crois, cette enquête avait été menée, quand on donne les enfants, on leur donne la possibilité d'aller spontanément vers telle ou telle catégorie de jouets, eh bien, de façon désespérante pour les partisans de la théorie du genre, les petits garçons vont plutôt vers les épées, les casques et tout ça, et les petites filles vont vers les jouets féminins. Bon. Alors, premier exemple. Deuxième exemple. Il y a cette proposition de loi qui a été déposée en France par un membre de la majorité. Donc on ne parle pas de minorité extrémiste, on parle d'une socialiste qui a déposé une proposition de loi qui vise à débaptiser les écoles maternelles. Pourquoi ? Parce qu'il y a maternelle dans l'école maternelle. Et donc il y a l'idée qu'il y a un rapport entre la toute petite enfance et les femmes. Proposition de loi, c'est pas un fantasme. Bon. Un cas un peu plus difficile, c'est le mariage pour tous. L'homosexualité. C'est un sujet toujours un peu dangereux, surtout quand on est enregistré. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi. Mais j'en parle de manière d'autant plus libre que j'en parlais avec un ami juriste l'autre jour, un des plus grands juristes fiscalistes en Europe. Je peux dire son nom avec ce que j'en dis. Il s'appelle Thierry Afskrift, qui est libéral, comme moi, et qui me disait « Non, moi, j'ai aucun problème avec ces lois. Pourquoi l'homosexualité, ça ne me dérange pas, c'est un choix de vie. » Je lui ai répondu « Mais Thierry, mais moi non plus. » Mais il faut distinguer, surtout pour un juriste, la question du fait et la question du droit. Je ne veux pas vous choquer, je vous dis ce que je pense, et là je n'ai aucune prétention à la vérité. Mais l'homosexualité me semble une réalité humaine qui est inhérente à la plupart des sociétés. On peut discuter de ça. Mais une chose est de constater une réalité factuelle, une autre est de décider si on doit mettre dans un certain nombre d'institutions, plusieurs fois séculaires et même millénaires, comme le mariage, sur un pied d'égalité, l'homosexualité, et l'hétérosexualité. Et cette distinction me paraît effectivement fondamentale. Du point de vue de la théorie du genre, la réponse, vous l'aurez tous compris, c'est oui. Non seulement il faut mettre l'hétérosexualité et l'homosexualité sur un pied d'égalité, mais tous les genres, tous les choix, tout ça doit être exactement traité de la même façon, faute de quoi on rentre dans l'imposture biologique dont je vous parlais au début de cet exposé. Bon, nonobstant le fait... En France, il y a un rapport immédiat entre la théorie du genre et la loi sur le mariage pour tous qui vient d'être votée. C'est clair que les deux étaient liés, puisque derrière, il y a la revendication que les couples homosexuels puissent avoir enfin, la procréation médicalement assistée, etc., etc. Bien. En Belgique, on a voté ça il y a 10 ans. Je ne suis pas certain. Honnêtement, je ne le sais pas. Je l'ignore. Je n'ai pas fait de recherche sur ce point. Mais je ne suis pas certain, parce qu'on peut aussi voter ce genre de loi en raison d'une sorte de... d'illusions ou de soucis humanitaires en disant l'homosexualité longtemps a été persécutée. C'est vrai, c'est une réalité, et par conséquent, pourquoi ne pas traiter sur un pied d'égalité ? Bon. Donc, dans le cas de la Belgique, je suspends mon jugement. Je ne dis pas qu'il y a un rapport évident entre les deux. Ce que je dis simplement, et ça c'est certain, c'est que du point de vue de la théorie du genre, il s'impose effectivement de laisser entrer dans le mariage, l'adoption, la procréation médicalement assistée, etc., tous les genres sur un strict pied d'égalité, puisqu'il n'y a pas de genre, il n'y a que des choix. Qui sont personnels et individuels. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aujourd'hui, dans la plupart de nos sociétés, même les États-Unis, on a toujours l'impression, d'ailleurs c'est vrai en partie, qu'ils ont une droite beaucoup plus... je ne dis pas qu'il faut être de droite nécessairement, enfin bon, que sur ces sujets éthiques, ils ont une droite beaucoup plus puissante qu'en Europe. Mais qu'est-ce qu'on constate ? C'est que finalement, les évolutions sont quasiment identiques. Il y a parfois quelques années de retard, d'avance ou quoi, mais on a des évolutions qui sont quasiment identiques. Et donc, dans tout l'Occident en particulier, donc aussi en Amérique du Sud, parce qu'ils sont très suiveurs, eux, par rapport à l'Europe, comme nous, Belges, le sommes par rapport aux Français, il y a On peut dire que pullulent actuellement les lois et les projets de loi qui non seulement s'inspirent, mais se revendiquent directement et expressément de la théorie du genre. Tout en se souvenant que quand il y a des débats nationaux, aussi disputés soient-ils, en réalité, ces débats ont toujours un temps de retard par rapport notamment à la Convention d'Istanbul dont je vous parlais, qui n'est pas la seule dans son genre. Il y a d'autres instruments qui existent au niveau international et qui ont déjà consacré théorie du genre. Donc on ne parle plus de quelque chose qui est développé dans le domaine des idées, on parle de quelque chose qui est aujourd'hui incarné dans une kyrielle, une myriade de lois et de propositions de lois. Et nous ne sommes qu'au début du processus. Nous ne sommes qu'au début du processus de déconstruction dans la norme du genre et donc du modèle, pour reprendre le terme de Butler, hétéro-normatif. Bon, vous avez des questions par rapport à ce point-là, avant que je passe au dernier ? Des remarques ? Oui, monsieur ?
Pas directement sur ce point, mais comme vous avez parlé du choix, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Un choix, c'est qu'il faut avoir une représentation pour avoir un choix. Et d'où vient cette représentation si elle ne vient pas de quelque chose de normatif ?
Bien, je vais céder la parole à Judith Butler, qui justement est ici. Non, ce que je veux dire, c'est que ça c'est à elle d'y répondre. C'est un partisan du genre d'y répondre. Eux, c'est, si vous voulez, c'est cette vision. C'est intéressant parce que nous, toute notre l'Occident s'est construit sur l'idée d'autonomie. On s'est autonomisé par rapport à la nature, par rapport à toute une série de déterminations. Et eux, ils accomplissent le pas ultime, mais qui est aussi un saut dans le vide, qui est l'idée qu'on peut s'autonomiser totalement par rapport à la nature. Une autonomisation totale, ce qui est évidemment une pure illusion. Donc, ça répond indirectement à votre question. On est dans l'abstraction pure, quoi. Ce genre de questions concrètes, elles s'en foutent complètement. Je veux dire, c'est pas du tout son ressort. Oui, monsieur.
C'est juste pour demander. Moi, je pousse aussi plus loin de la réflexion en disant, OK, on met sur le même pied d'égalité le mariage hétérosexuel, homosexuel, etc., en termes de droit. Et quand viendront des problèmes du genre, enfin, l'inceste, ou pédophilie, ou peut-être la relation sexuelle avec les animaux.
On peut en parler. Si vous voulez, on peut en parler. Là, je peux vous répondre de manière très précise.
Okay.
Bon, Butler a écrit son livre en 1990. Je fais une concession aux Français qui vont regarder la vidéo sur YouTube. Elle a écrit son livre en 1990. Maintenant, vous m'avez distrait. Alors, elle ne pouvait évidemment pas dire dans son livre « Vive la pédophilie, vive l'inceste ». Je ne crois pas qu'elle aurait eu beaucoup de succès. Nonobstant, elle cite à un moment Michel Foucault, qui célèbre, laissez-moi me souvenir de la formule exacte, les plaisirs de l'échange sexuel intergénérationnel. Alors, comme je le disais à ma conférence à l'Assemblée nationale, quand on parle d'échange sexuel intergénérationnel, on peut parler de la sexualité entre les centenaires et les octogénaires, mais naturellement, on parle plus généralement de pédophilie. Alors, elle cite Michel Foucault, elle ne dit pas qu'elle est d'accord avec ça, mais elle ne le condamne pas non plus, elle le cite. Maintenant, monsieur, pour aller de manière plus fondamentale, il est clair que lorsque vous voulez déconstruire toutes nos représentations de la sexualité, eh bien c'est la porte ouverte à tout, y compris, mais je ne dis pas que chaque partisan, parce qu'il faut se méfier des amalgames qui ne sont pas un procédé intellectuel respectable, tous les partisans de la théorie du genre ne sont pas nécessairement en faveur de ça, mais c'est la porte ouverte conceptuelle, abstraite, à effectivement tous les modes sexuels, y compris... Mais attention, il faut être prudent. Hein. Moi, je ne dis pas que l'homosexualité, la zoophilie, c'est pareil. Ça n'a rien à voir. Ce que je dis simplement, et c'est important, c'est que si vous enlevez tous les repères qui font la sexualité depuis le début de notre civilisation, de toutes les civilisations humaines, effectivement, c'est la porte ouverte à de nombreuses choses. Non, mais il faut être précis par rapport à ça, parce que si vous voulez, vous, ce qui est le but finalement, lutter contre la théorie du genre et témoigner, il faut se garder des amalgames, parce que sinon vous êtes directement coupé du débat et plus personne ne voudra vous parler. Non. Vous avez d'autres questions sur ce point ? Monsieur Ferfari.
Qu'est-ce qui se passe ailleurs ?
En Asie, à ma connaissance, je ne crois pas que la théorie du genre est connue et engrangée de grands succès, mais il ne faut pas mésestimer le... Dans le domaine des idées, l'Occident domine des pieds à la tête le monde. C'est encore vrai aujourd'hui. C'est beaucoup moins vrai dans le domaine économique, etc., mais dans le domaine des idées, oui. Et si on prend le continent, par exemple, sud-américain, ils en sont encore vraiment complètement... Enfin, ils se considèrent comme des Européens, ce qui... très bien, mais ils en sont encore vraiment à souvent une forme de plagiat normatif par rapport à ce que font les... Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Ça a commencé par l'Occident, et c'est... Alors, évidemment, il y a une grosse question qu'on me pose souvent, c'est liée à l'islam. L'islam, a priori, la théorie du genre et l'islam ne sont pas très compatibles. Oui, Mais oui, mais en même temps, c'est intéressant. Mais j'ai quand même été frappé de voir qu'en France, par exemple, dans le débat sur le mariage pour tous, il y en a, mais il y a très peu de musulmans qui sont manifestés, en fait. Hein. Donc, alors que pourtant, là, on est front. Mais je crois qu'il y a une raison de ça, c'est que les musulmans en Europe ont une certaine importance numérique, démographique aujourd'hui, mais les leviers de pouvoir, vous avez beaucoup plus de gens. Dans les départements littéraires des universités européennes ou américaines que je connais un peu, vous avez beaucoup plus de gens qui sont partisans de la théorie du genre que de théologiens islamiques, quoi. Je veux dire, bon, voilà, donc je pense que c'est une question de levier de pouvoir. Bon, évidemment, il y a une contradiction qui pourra un jour se faire, mais j'attends de voir. J'attends qu'il y ait effectivement un mouvement musulman structuré qui dise, écoutez, non, ça va pas. Pour le moment, ça vient plutôt de chrétiens comme vous ou d'abominables agnostiques, je n'ai pas dit athées, comme moi. Est-ce que vous avez d'autres questions encore, monsieur ?
Il serait peut-être intéressant de résumer l'exemple que vous donnez au début de votre livre. Ça m'a fait assez bien frappé. Sur l'expulsion de l'homme de sa maison.
Mais d'accord, si vous voulez. En fait, en France, ils ont voté une loi en 2010... qui est une loi contre les violences psychologiques. Bon, si monsieur me lance là-dessus, là, évidemment, mais je vais essayer quand même de faire court, parce que c'est un sujet vraiment désopilant, même si ça c'est pas évident prime abord. Donc, une loi contre les violences psychologiques. Vous imaginez déjà une loi pénale. Hein. Donc, si vous faites des violences psychologiques dans le couple en France, vous êtes passible de 10 ans de prison. Ferme, hein. De la vraie prison, c'est dans la loi. Alors, pourquoi ? Eh bien, j'ai lu les travaux parlementaires de cette loi, à l'Assemblée nationale et au Sénat, intégralement. Ça fait 300 pages, on a 4 souvent. Et en fait, il y a cette idée que les femmes sont soumises et sont victimes de violences dans tous les compartiments du secteur, dans tous les compartiments d'activité humaine, jusqu'au cœur du langage, et certainement dans le couple. Il y a cette idée que les femmes sont non seulement davantage victimes de violences physiques de la part des hommes dans le couple, qu'ils soient mariés ou pas, mais également davantage victimes de violences psychologiques. On va pas rentrer dans les détails de ça parce que ça nous éloigne un tout petit peu, mais il est clair qu'il y a des enquêtes scientifiques. Moi, en fait, c'est ça, en fait, historiquement. De même que le GIEC, je vous ai raconté cette conversation à la Sorbonne, moi, ce qui m'a mené à ça, c'est ça. J'ai vu une campagne d'information en Belgique à la télévision où on montrait une femme victime de violence de la part de son mari. C'était, je me souviens plus du nom de ces deux personnages, je les cite dans le bouquin. Et alors, premier regard, je vois cette femme qui est victime de. Je me dis, oui, c'est bon, c'est la violence conjugale, c'est tragique, quoi. Et après ça, je réfléchis en me disant, tiens, c'est bizarre, parce que c'est pas de violence physique dont il s'agit ici, c'est de violence psychologique. C'est l'homme qui l'insulte, enfin, qui la traite mal, mais de façon purement verbale. Et dans toute cette campagne, la victime était toujours la femme, et le bourreau, entre guillemets, c'était toujours l'homme. Je me suis dit, c'est quand même étonnant. La violence physique, qu'elle soit plus souvent masculine que féminine, elle n'est pas toujours, d'ailleurs, parce qu'il y a des enquêtes scientifiques qui existent. Ça me paraît effectivement dubitable. Mais vous, les femmes ici, vous, les hommes, vous le savez. Il y a des femmes qui, sur le plan psychologique, sont absolument redoutables. Cette idée que la violence psychologique serait dans la quasi-totalité des cas masculine du côté du bourreau et féminine me paraissait fausse. Et c'est là que je suis remonté à la théorie du genre. Sans la théorie du genre, qui affirme donc l'imposture hétéronormative, mais également, je vous avais épargné ce terme, c'est monsieur qui m'oblige à en parler, phallogocentrique. Donc elle estime que toute l'histoire de l'humanité est phallogocentrique, c'est-à-dire à consacrer, si vous voulez, la domination de l'homme sur la femme. Et elle a raison. Pour un grand nombre de sociétés, effectivement, il y avait une forme de domination. Mais dans nos sociétés, soutenir l'idée, et après ça j'en viens à l'exemple, soutenir l'idée que les femmes, dans nos sociétés maintenant, sont encore dominées par les hommes, me paraît contrefactuel. Pour parler en termes un peu de périphrase, me paraît objectivement fausse. Pourquoi ? Mais parce que les femmes sont égales en droit. On peut aller dans le détail des 20 000 lois ou 20 000 pages législatives, on ne trouve plus la moindre discrimination entre les hommes et les femmes. Les femmes ont acquis, tout ça est évidemment formidable, l'indépendance, l'autonomie financière. Les femmes se sont appropriées la décision sur les enfants. Moi, j'ai 40 ans. Tous mes amis autour de moi sont comme chez moi. On décide d'avoir des enfants, on discute. Mais à la fin, la femme a un droit de veto. Il n'y a plus de femmes. Et donc, à la fin, c'est la femme qui décide. Quand, combien, j'avorte. On dit souvent l'avortement, il y a deux personnes qui sont concernées, l'embryon et la femme. Il y a le père aussi, accessoirement, on n'en parle même plus, tellement c'est évident. Mais voilà. Donc cette idée qu'il y aura encore une domination me paraît effectivement totalement fausse. Et donc, nonobstant ces lois sont adoptées, ce qui signifie qu'en France, aujourd'hui, et c'est cohérent avec la Convention d'Istanbul dont je vous parlais auparavant, on peut expulser de chez lui un homme qui est soupçonné de violence psychologique contre sa femme. Un agent administratif suffit à vous expulser de votre domicile, même si vous êtes propriétaire, ça n'a plus qu'une espèce d'importance, le temps que l'instruction puisse avoir lieu, donc ça peut durer 6 mois, 6 mois. Donc vous allez à l'hôtel pendant 6 mois parce qu'on vous soupçonne pas de violence physique, mais de violence psychologique. Je termine avec ce point rapidement. Il est évident qu'à partir du moment où vous faites rentrer la violence psychologique dans la loi, vous y faites rentrer ce contre quoi toute la tradition juridique occidentale s'est bâtie, c'est-à-dire l'arbitreur. Parce que décider qu'il y a une violence... Il y a des gens, il y a des auteurs qui ont été auditionnés dans travaux préparatoires de cette loi, Marie-France Irigoyen, etc., qui sont en réalité des romanciers, si on peut dire, pour rester, disons, aimables, en tout cas pas des scientifiques, et qui donnent comme exemple de violence psychologique le silence quand il est méchant. Le fait de bouder, mais longtemps, évidemment. Oui, donc on peut évidemment y faire entrer absolument n'importe quoi, et donc on consacre effectivement l'arbitreur dans la loi. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en France, ils ont imaginé un dispositif donc, pour conscientiser le bourreau de violence psychologique, hein, je le précise, c'est on l'enlève de son domicile et on l'oblige à aller habiter dans un foyer de SDF. C'est un procureur qui s'appelle Frémiot qui a inventé ça, pour conscientiser le bourreau sur le caractère maléfique de sa personnalité. Tout ça est vrai. Ne me regardez pas comme si je racontais n'importe quoi. Je n'invente pas. C'est dans les travaux préparatoires et ça existe dans la loi. Alors, cette loi, pour le moment, elle existe depuis 2010. Elle n'a quasiment jamais été appliquée, comme la plupart des lois que vote le Parlement français, qui vote effectivement de manière relativement frénétique, hein, comme à l'époque décadente de l'Empire romain. Des lois qui, pour ainsi dire, mais elles peuvent l'être. Et à partir du moment où vous mettez dans le droit pénal des catégories qui sont totalement ouvertes, donc arbitraires, vous donnez à l'État, au gouvernement, le pouvoir de condamner qui il veut, au moment qu'il choisit. Donc voilà. Ça, c'était pour l'exemple que monsieur m'a demandé de répéter. Vous avez des remarques par rapport... Et puis après ça, je termine avec mon dernier point. Monsieur.
Et le rôle de l'ONU dans la dissémination de la théorie.
Moteur. Ça a commencé, en fait, l'incarnation, l'entreprise, l'entrepreneuriat normatif a commencé, je crois, en 1993 ou 1995, par une recommandation. Je n'en ai pas parlé parce que ce n'est qu'une recommandation qui n'a pas d'effet de droit. Mais il est clair que dans les travaux préparatoires de la Convention d'Istanbul, on se revendique de cette recommandation qui a des effets légitimement. Donc c'était une première victoire, mais ce n'était encore qu'un apéritif, si je puis dire, dans la marche vers la victoire de la théorie du genre, au niveau normatif. D'autres questions ? Non ? Très bien. Alors je vais terminer donc sur le dernier point. Bon, à ce stade de mon exposé, vous êtes parfaitement fondé à vous dire que de toute façon c'est foutu, hein, que c'est sans espoir et que nous n'allons certainement pas pouvoir faire quoi que ce soit. Et d'une certaine façon, c'est vrai. Je veux dire, quand on part comme moi d'une loi française de 2010 et qu'on remonte jusqu'à cette convention d'Istanbul, ça fait peur. On se dit à quel point on peut se faire, comment dirais-je, abuser par des processus qui nous dépassent et qui, une fois qu'ils sont arrivés à leur aboutissement naturel, c'est-à-dire une norme, sont devenus quasiment inexpugnables. Je pense néanmoins que ce qui a été fait peut être défait, et il faut procéder, pas en deux étapes, mais dans deux registres. Le premier registre, c'est le registre idéologique. Comme la théorie du genre a une prétention à la vérité, il faut, comme j'espère avoir commencé de le faire, mais c'est sûr que ce n'est pas moi tout seul qui vais évidemment démonter la théorie du genre, il faut montrer qu'elle est fausse. C'est la première étape. Il faut la réfuter, montrer qu'elle est fausse. Elle n'est pas simplement du domaine de l'opinion, on trouve ça bien ou pas bien, elle est fausse. Et il faut le dire, il faut argumenter, il faut témoigner en ce sens. Je pense que c'est le premier combat qui doit être mené. C'est un combat, disons, intellectuel ou, en l'occurrence, sur le plan idéologique. Deux, et je reste quand même un instant sur le point précédent, il ne s'agit pas de dire que moi, comme chrétien, je n'ai pas la même anthropologie. Tout ça est très bien, mais là, ça ne va rien changer. Puisque là, c'est opinion contre opinion, préférence subjective ou prédilection, même s'il y a beaucoup d'arguments, une tradition, etc. Quand on peut montrer qu'une théorie est fausse, autant commencer par là. C'est à ce moment-là qu'on a son maximum de pouvoir de nuisance à l'égard d'une théorie. Ça, le marxisme, on l'a réfuté, 50 ans après, comme je le disais tout à l'heure, il est encore au pouvoir dans plusieurs dizaines d'États. Donc ça ne veut pas dire qu'ipso facto, les choses vont se déconstruire. Mais il faut en tout cas en commencer, à mon avis, par là. Et le deuxième point, c'est sur le plan politique. Je suis persuadé que si on expliquait la théorie du genre d'une manière factuelle, objective, à tous les membres du Parlement belge, ou à tous les membres de l'Assemblée nationale en France, quoiqu'en France, la droite soit quand même encore beaucoup plus égarée, enfin, c'est-à-dire orpheline de toute espèce de repère idéologique, à mon avis, qu'en Belgique, surtout du côté flamand, je pense qu'une grande majorité de parlementaires n'en voudraient pas. Ils ne voudraient certainement pas aller jusqu'à cette déconstruction totale du genre. Ils ne voudraient certainement pas de cette négation de la biologie, parce que, quelle que soit leur formation, ils se rendraient compte qu'il y a là une dimension proprement idéologique. Et donc, je pense qu'il y a un combat politique qui peut déjà être mené maintenant. Nous sommes en démocratie. Moi, je n'ai pas une vision cynique de la démocratie, comme tous les régimes, la démocratie, rien de ce qui est humain n'est parfait, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut déplorer, mais les partis politiques, les journalistes, les rédactions sont beaucoup plus sensibles que certains parmi vous, peut-être, peuvent se le figurer, à des témoignages, même strictement individuels. Donc le mieux, c'est d'avoir des organisations structurées pour lutter contre cette aberration idéologique, mais si vous n'avez pas accès à ce genre d'organisation, n'hésitez pas à témoigner. N'hésitez pas à informer vos parlementaires, ils vous représentent, ils sont payés par vous. N'hésitez pas, quand il y a une émission qui est organisée sur un sujet sexuel, à écrire aux rédactions. Donc ça vous paraîtra dérisoire. D'une certaine façon, ça l'est. Mais dans un petit pays comme la Belgique, je crois que vous seriez surpris de mesurer l'impact que peut avoir un seul courrier d'une seule personne quand il est argumenté et qu'il est bien structuré. Je n'ai pas d'autre solution. La Convention d'Istanbul, Conseil de l'Europe, par exemple, évidemment, je n'ai pas de solution qui permettrait d'annuler. Maintenant, encore une fois, ce qui a été fait peut être défait. On peut refaire une autre convention qui prive au moins la Convention d'Istanbul d'une grande partie de ses effets utiles. Mais il y a d'abord un combat politique qui doit être mené au niveau national, puisque la Convention internationale au Conseil de l'Europe, qui est purement intergouvernementale, n'est finalement jamais que le reflet de ce que les gouvernements veulent en faire. Donc si nous commençons par des gouvernements nationaux, c'est parce que la Convention a été votée. Donc ce n'est pas maintenant en essayant d'avoir une influence au niveau du Conseil de l'Europe qu'on pourrait défaire ce qui a été fait à ce niveau.